Bonjour et bienvenue dans l'accent des autres. Voici comme chaque semaine l'actualité des médias francophones publics avec Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter, la RTBF et RFI. Et on va commencer précisément avec RFI et cette polémique au Sénégal. Un agent de l'éducation nationale est relevé de ses fonctions, Nicolas Sûr. Il avait proposé un sujet de bac blanc autour de l'homosexualité.
Un sujet qui a provoqué de vives réactions dans un pays où l'homosexualité est réprimée. Des défenseurs des droits des personnes LGBT s'inquiètent d'une progression de l'homophobie.
Au Canada, cette véritable onde de choc cette semaine, Benoît Audet, la découverte de restes d'enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone.
Oui, une découverte macabre qui remet en lumière une page sombre de l'histoire du Canada.
En Belgique, la question du port du voile et des signes convictionnels dans les services publics refait surface. Elle crée même des tensions au niveau des gouvernements fédéral et bruxellois, Jacques Kremers.
En cause, la désignation d'une commissaire voilée, la condamnation judiciaire de la STIB, les transports en commun bruxellois, pour discrimination à l'égard d'une femme voilée elle aussi.
En Suisse, il est question du sort de la nouvelle loi sur le CO2, un sort incertain. Cette loi doit pourtant concrétiser les engagements pris lors de l'accord sur le climat de Paris, Pierre-Anne Chauffat.
Oui, le peuple tranchera le 13 juin et le camp du non progresse dans les sondages en attaquant le principe même de nouvelles taxes incitatives.
Enfin, en France, la vaccination des enfants sera bientôt possible à partir de 12 ans avec l'autorisation des parents, Éric Delvaux.
Oui, ce sera possible dès la mi-juin pour que les enfants puissent passer un été et une prochaine rentrée scolaire plus tranquille. Et c'est aussi évidemment pour renforcer l'immunité collective des Français.
Voilà donc pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de l'accent des autres. Cette polémique donc au Sénégal, pour commencer, un sujet de bac blanc proposé la semaine dernière à des futurs bacheliers a donc enflammé les esprits, Nicolas, parce qu'il faisait référence à l'homosexualité.
Oui, c'est un texte de l'écrivain américain Armistead Maupin, lui-même militant des droits des personnes LGBT, qui s'est retrouvé la semaine dernière sur la table des élèves de terminale de l'Académie de Rufisque. Dans ce texte, le narrateur révèle son homosexualité à sa mère. Et parmi les questions posées pour cette épreuve d'anglais, êtes-vous pour ou contre l'exclusion sociale des homosexuels au Sénégal? L'affaire a provoqué un tollé, des responsables religieux, syndicaux, des parents d'élèves ont dénoncé une tentative de promotion de l'homosexualité à l'école. L'épreuve a été retirée. L'agent qui avait transmis le sujet a présenté des excuses. Mais le ministère de l'Éducation l'a relevé de ses fonctions, déclarant, je cite, « les programmes demeurent scrupuleusement adossés à nos valeurs et croyances ».
Et cette polémique, elle éclate dans un climat déjà peu favorable aux personnes homosexuelles.
En effet, une manifestation avait été organisée le 23 mai dernier pour réclamer la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal, où la loi prévoit déjà des amendes et des peines allant jusqu'à 50 prisons pour actes impudiques ou contre nature avec un individu de même sexe. Dans ce contexte, le collectif de défense des droits des homosexuels Free Sénégal dénonce des discours de haine et une montée des agressions à l'encontre de la communauté LGBT. Des verrous démocratiques ont sauté, s'indigne le mouvement, qui déplore le silence des organisations de la société civile.
Cette terrible découverte à présent au Canada, les restes de 215 enfants ont été identifiés sur le site d'un ancien pensionnat autochtone dans la province de la Colombie-Britannique. Une découverte qui a bouleversé le pays. Elle a en fait rouvert des plaies encore vives chez les autochtones. Benoît, ce sont des blessures d'un passé somme toute récent.
Le système des pensionnats a été imaginé au 19e siècle. Le but était de les regrouper dans des orphelinats pour effacer toute trace de culture autochtone chez eux. Ce qui est terrible, c'est qu'on estime que 150 000 enfants ont été arrachés à leurs parents pendant toutes ces années pour être envoyés dans ces pensionnats dirigés par des communautés religieuses. Et imaginez-vous, quand on parle d'histoire récente, le dernier pensionnat a fermé ses portes il y a seulement 25 ans.
Et dans ce cadre, on comprend que la découverte a réveillé des souvenirs douloureux.
Il y a encore de nombreux survivants de ces pensionnats partout au pays. La douleur est encore vive pour eux. Ils vivent avec des séquelles psychologiques et physiques même pour certains d'entre eux. Donc, la découverte de ce charnier a au moins permis de mettre de l'avant les souffrances de ces Autochtones et de remettre à l'ordre du jour cette question.
Alors, quelle a été, Benoît, la réaction du gouvernement fédéral?
Le premier ministre Justin Trudeau, qui a fait de la réconciliation avec les peuples autochtones une priorité, a dit que le Canada avait manqué à ses devoirs envers les enfants autochtones. Il a aussi promis des indemnités aux survivants des pensionnats. En même temps, c'est un long travail qui s'amorce. Il y avait des pensionnats partout au Canada et on risque fort bien de faire des découvertes semblables à celles de la Colombie-Britannique au cours des prochains mois.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En Belgique, on retiendra aujourd'hui la condamnation de la Société des transports publics de Bruxelles, la STIB, condamnation par le tribunal du travail pour discrimination à l'égard d'une candidate à l'emploi. Elle portait le foulard islamique. Jacques, c'est une affaire qui relance le débat sur les signes convictionnels dans les services publics.
Et ce qui a déclenché la polémique, c'est la décision de la STIB de ne pas interjeter appel de cette décision judiciaire. Un vote étriqué au sein du comité de gestion de l'entreprise, l'entreprise de transport public, les trams et les bus bruxellois, qui est aussi le plus gros employeur régional. Finalement, le dossier s'est retrouvé sur la table du gouvernement bruxellois, qui a décidé de ne pas décider tout de suite, le temps de trouver une solution au-delà des clivages politiques entre les différents partis, les uns partisans d'une laïcité forte, les autres plus enclins à des assouplissements. Les ministres ont jusqu'au 20 juin pour tenter de dégager une position commune.
Oui, et le voile par ailleurs s'est aussi invité, Jacques, au niveau fédéral avec la désignation cette fois d'une commissaire du gouvernement.
Commissaire auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, une femme voilée, avec un CV en béton, a souligné le Premier ministre. Mais cette nomination irrite l'un des partenaires de la majorité fédérale, les libéraux francophones, qu'il estime contraire à la neutralité de l'État. Rappelé à la Chambre pour des explications, Alexander De Croo a tenté de faire bonne figure, affirmant qu'il n'y avait aucune discordance au sein du gouvernement par rapport à cette désignation. Coup sur coup, la question du voile dans la fonction publique s'est donc réinvitée à l'agenda politique, bousculant des majorités qui s'en seraient bien passées et qui s'en trouvent fragilisées.
Dernière ligne droite à présent en Suisse, en vue des votations du 13 juin prochain. Parmi les 5 objets soumis au peuple, le sort de la nouvelle loi sur le CO2 est incertain, en tout cas plus incertain que le début de campagne ne le laissait imaginer, Pierron.
C'est vrai, le dernier sondage publié cette semaine par l'audiovisuel public montre que le camp des opposants progresse dans les intentions de vote, même si le oui est encore légèrement majoritaire. On s'achemine donc probablement vers un après-midi à suspense le dimanche 13 juin au fil du dépouillement canton par canton. Ce compromis qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre rassemble pourtant tous les partis, à l'exception de l'UDC, le Parti conservateur, première force politique du pays. Pour les partisans, comme l'écologiste Adèle Torrance, il ne reste plus beaucoup de temps pour convaincre.
Je suis surtout inquiète. Cette loi, c'est le moyen de résoudre cette crise climatique, c'est le moyen d'appliquer l'accord de Paris. Sans cette loi, nous n'avons plus de politique climatique et nous allons tout faire pour mobiliser nos troupes. Et puis, il va falloir aussi, au centre et à droite, convaincre encore et encore l'électorat qui est sceptique dans ces milieux-là.
Voilà, l'écologiste Adèle Torrance. Alors si je comprends bien, Pierron, c'est l'électorat du centre droit qui ne suivrait pas la ligne donnée par le parti. Qu'est-ce qui coince ?
C'est le principe des nouvelles taxes sur les combustibles et la mobilité qui peine à convaincre dans les rangs libéraux, plus habitués à réclamer des baisses d'impôts. C'est du moins ce qu'indique ce sondage. Ces taxes incitatives, selon le principe du pollueur-payeur, seront pour une part redistribuées à la population et pour l'autre investies dans un fonds destiné à encourager la transition énergétique. Une mécanique qui peine apparemment à l'emporter sur l'argumentaire bien rodé de l'UDC contre l'intervention de l'État, incarné ici par son ancien président Albert Rushdie.
On va freiner l'innovation avec laquelle on pourrait aider le climat dans tout le monde avec nos exportations. On a déjà beaucoup fait en Suisse et c'est vraiment une loi pas du tout libérale. Ça coûte beaucoup pour nos familles, pour nos PME. Ça n'aide jamais à créer quelque chose de bon pour le climat.
Vous l'aurez compris, ce représentant des petites et moyennes entreprises refuse toute incitation financière à l'innovation. Une votation qui se jouera donc sur l'argument du porte-monnaie, mais aussi sur le rôle de l'État dans un pays qui reste très libéral.
On va terminer cette semaine avec les suites de la crise sanitaire en France, où les enfants pourront donc se faire vacciner dès 12 ans. Ce sera à partir du 15 juin et avec l'autorisation des parents. Il s'agit à la fois de renforcer l'immunité collective des Français et d'éviter en même temps les ruptures scolaires à partir de la rentrée prochaine, après les vacances d'été donc. Daniel Messager, pour les autorités, cette vaccination est particulièrement importante.
Sans cette vaccination, c'est dans les établissements scolaires que se retrouverait à la rentrée la population non vaccinée, un virus qui circulerait chez des collégiens, lycéens, avec un risque de reprise d'épidémie. Pour le professeur Arnaud Fontanelle, l'Institut Pasteur, il ne fallait pas hésiter.
Avec les variants plus transmissibles qui circulent maintenant en Europe, le variant anglais ou le variant indien, on va avoir besoin d'une proportion de la population immunisée, c'est-à-dire soit infectée naturellement, soit vaccinée, plus importante que ce que l'on avait anticipé, pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Et évidemment, il faudra donc que les jeunes participent à cet effort vaccinal.
L'intérêt collectif est doublé d'un intérêt individuel. Les ruptures scolaires et sociales ont entraîné des problèmes psychiques. Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil.
Nos adolescents ont beaucoup souffert de cette année scolaire en pointillé, avec l'impossibilité de se réunir à l'extérieur de l'école. Il y a une vraie souffrance. Donc, c'est un des moyens de retourner à une sociabilisation normale.
A-t-on assez de recul sur la vaccination pour cette tranche d'âge? Une étude de Pfizer la semaine dernière n'a montré aucun effet secondaire, mais elle ne portait que sur 2000 adolescents. Les insérer dans cette campagne de vaccination, c'est bloquer encore plus de nouvelles portes d'entrée pour le virus.
Daniel Messager pour France Inter, et on ajoutera qu'en Suisse, Pierran, la vaccination se poursuit à un rythme soutenu.
La barre des 20% de personnes totalement vaccinées a été franchie cette semaine et plus de 15% ont reçu la première dose. Les cantons mettent sur pied différentes possibilités pour répondre à la demande qui reste forte. Équipe mobile pour les régions décentrées, centres de vaccination ouverts 7 jours sur 7, également sans rendez-vous. Globalement, le rythme par rapport à la semaine précédente s'est encore accéléré de 10% et le gouvernement a définitivement validé vendredi le certificat Covid que chacun pourra obtenir avant la fin du mois, que ce soit pour voyager ou pour participer aux grands événements qui demanderont ce sésame.
Voilà, et en Belgique aussi, ça va dans le bon sens. Les restaurants et cafés peuvent rouvrir la semaine prochaine, plus seulement en terrasse. Et du côté des voyages aussi, des assouplissements ont été annoncés ce vendredi. Merci à tous. C'était l'actualité des médias francophones publics avec RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. Excellente fin de semaine à tous et on se retrouve, si vous le souhaitez, comme d'habitude, à la même heure, au même endroit, la semaine prochaine.